Frédéric Nietzsche, Généalogie de la morale. Deuxième dissertation, partie 2. 12. Deux mots encore sur l'origine et le but du châtiment. Deux problèmes distincts, ou qui de moins devraient l'être, mais que par malheur on confond généralement. Comment, dans ce cas, les généalogistes de la morale ont-ils procédé jusqu'ici? Comme toujours, ils ont été naïfs. Ils découvrent dans le châtiment un but quelconque, par exemple la vengeance ou l'intimidation, et placent alors avec ingénuité ce but à l'origine comme causa fiendi du châtiment. Et voilà. Or, il faut se garder par-dessus tout d'appliquer à l'histoire des origines du droit le but dans le droit. Et en tout genre d'histoire, rien n'est plus important que ce principe dont on s'est pénétré si difficilement, mais qui devrait être accepté comme une vérité inattaquable. Je veux dire que la cause originelle d'une chose et son utilité finale, son emploi effectif, son classement dans l'ensemble d'un système des causes finales, sont deux points séparés toto coelo. Que quelque chose d'existant, quelque chose qui a été produit d'une façon quelconque, est toujours emporté par une puissance qui lui est supérieure, vers de nouveaux desseins, toujours mis à réquisition, armé et transformé pour un emploi nouveau. Que tout fait accompli dans le monde organique est intimement lié aux idées de subjuguer, de dominer, et encore, que toute subjugation, toute domination, équivaut à une interprétation nouvelle à son accommodement, où nécessairement le sens et le but qui subsistaient jusque-là seront obscurcis ou même effacés complètement. Lorsque l'on a compris, dans tous ces détails, l'utilité de quelque organe physiologique, ou d'une institution juridique, d'une coutume sociale, d'un usage politique, d'une forme artistique ou d'un culte religieux, il ne s'ensuit pas encore qu'on ait compris quelque chose à son origine. Cela peut paraître gênant et désagréable aux vieilles oreilles, car, de tout temps, on a cru trouver dans les causes finales, dans l'utilité d'une chose, d'une forme, d'une institution, leur raison d'être propre. Ainsi, l'œil serait fait pour voir, la main pour saisir. De même, on s'était représenté le châtiment comme une invention faite en vue de la punition. Mais le but, l'utilité, ne sont que l'indice d'une volonté de puissance à maîtriser quelque chose de moins puissant et lui a imprimé, de sa propre initiative, le sens d'une fonction. Toute l'histoire d'une chose, d'un usage, peut être une chaîne ininterrompue d'interprétations et d'applications toujours nouvelles, dont les causes n'ont même pas besoin d'être liées entre elles, mais qui, dans certaines circonstances, ne font que se succéder et se remplacer au gré du hasard. L'évolution d'une chose, d'un usage, d'un organe, n'est donc rien moins qu'une progression vers un but, et moins encore une progression logique et directe, atteinte avec un minimum de force et de dépenses, mais bien une succession constante de phénomènes d'assujettissement plus ou moins violents, plus ou moins indépendants les uns des autres, sans oublier les résistances qui s'élèvent sans cesse, les tentatives de métamorphose qui s'opèrent pour concourir à la défense et à la réaction. Enfin, les résultats heureux des actions en sens contraire. Si la forme est fluide, le sens l'est encore bien davantage. Et dans tout organisme pris séparément, il n'en est pas autrement. Chaque fois que l'ensemble croît d'une façon essentielle, le sens de chaque organe se déplace. Dans certaines circonstances, leur dépérissement partiel, leur diminution, par exemple par la destruction des termes moyens, peut être l'indice d'un accroissement de force et d'un acheminement vers la perfection. Je veux dire que même l'état d'inutilisation partielle, le dépérissement et la dégénérescence, la perte du sens et de la finalité, en un mot, la mort, appartiennent aux conditions d'une véritable progression, laquelle apparaît toujours sous forme de volonté et de direction vers la puissance plus considérable et s'accomplit toujours aux dépens de nombreuses puissances inférieures. L'importance d'un progrès se mesure même à la grandeur des sacrifices qui doivent lui être faits. L'humanité, en tant que masse sacrifiée à la prospérité d'une seule espèce d'homme plus fort, voilà qui serait un progrès. Je relève ce point capital de la méthode historique, puisqu'il va à l'encontre des instincts dominants et du goût du jour, qui préférerait encore s'accommoder du hasard et même de l'absurdité mécanique de tous les événements, plutôt que de la théorie d'une volonté de puissance intervenant dans tous les cas. L'aversion pour tout ce qui commande et veut commander, cette idiosyncrasie des démocrates, le mise-anarchisme moderne, à vilaine chose, vilain mot, a pris peu à peu les allures de l'intellectualisme le plus raffiné, de sorte qu'il s'infiltre aujourd'hui, goutte à goutte, dans les sciences les plus exactes, les plus objectives en apparence. Il me semble même qu'il s'est déjà rendu maître de la physiologie et de la biologie tout entière, à leur préjudice, cela va sans dire, en ce sens qu'il leur a escamoté un concept fondamental, celui de l'activité proprement dite. Sous la pression de cette idiosyncrasie, on avance la faculté d'adaptation, c'est-à-dire une activité du second ordre, une simple réactivité. Bien plus, on a défini la vie elle-même, une adaptation intérieure, toujours plus efficace, à des circonstances extérieures. Herbert Spencer. Mais on méconnaît l'essence de la vie, la volonté de puissance. On ferme les yeux sur la prééminence fondamentale des forces d'un ordre spontané, agressif, conquérant, usurpant, transformant, et qui donne sans cesse de nouvelles exégèses et de nouvelles directions. L'adaptation étant d'abord soumise à leur influence. C'est ainsi que l'on nie la souveraineté des fonctions les plus nobles de l'organisme, fonctions où la volonté de vie se manifeste active et formatrice. On se souvient du reproche adressé par Huxley à Spencer au sujet de son nihilisme administratif. Mais il s'agit là de bien d'autres choses encore que d'administration. 13. Pour en revenir à notre sujet, c'est-à-dire au châtiment, il faut distinguer deux choses en lui. D'une part, ce qu'il a de relativement permanent, l'usage, l'acte, le drame, une certaine suite de procédures strictement déterminées. D'autre part, la fluidité, le sens, le but, l'attente, toutes choses qui se rattachent à la mise en œuvre de ces procédures. Être ici, sans plus, par analogie, conformément aux points de vue principaux de la méthode historique développée tout à l'heure, que la procédure elle-même est quelque chose de très ancien, d'antérieur à son utilisation pour le châtiment, que le châtiment a été introduit, par interprétation, dans la procédure, qui existait depuis longtemps, mais dont l'emploi avait un autre sens. Bref, qu'il n'en va pas, ici, comme l'ont imaginé tous nos naïfs généalogistes du droit et de la morale, pour qui la procédure a été inventée avec le châtiment pour but. Comme autre, on s'imaginait que la main avait été créée pour saisir. Pour ce qui en est de l'autre élément du châtiment, l'élément mobile, le sens, dans un état de civilisation très avancé, celui de l'Europe contemporaine par exemple, le concept châtiment n'a plus un sens unique, mais est une synthèse de sens. Tout le passé historique du châtiment, l'histoire de son utilisation à des fins diverses, se cristallise finalement en une sorte d'unité, difficile à résoudre, difficile à analyser et, appuyant sur ce point, absolument impossible à définir. Il est impossible de dire aujourd'hui pourquoi l'on punit, en somme. Tous les concepts, où se résume un long développement d'une façon sémiotique, échappent à une définition. N'est définissable que ce qui n'a pas d'histoire. Par contre, dans un état plus rudimentaire, cette synthèse de sens paraît encore plus soluble et aussi plus transmuable. On peut encore se rendre compte comment, dans chaque cas particulier, les éléments de la synthèse modifient leur valeur et leur ordre, de sorte que c'est tantôt cet élément autre qui prédomine aux dépens des autres, et qu'en certaines circonstances, un élément, par exemple le but de terreur à inspirer, semble éclipser tous les autres. Pour qu'on puisse se représenter quelque peu combien incertain, surajouté, accidentel est le sens du châtiment, combien une même procédure peut être utilisée, interprétée, façonnée dans des vues essentiellement différentes, voici l'aperçu que j'ai pu donner grâce à des matériaux relativement peu nombreux et tous fortuits. Châtiment, moyen d'empêcher le coupable de nuire et de continuer ses dommages. Châtiment, moyen de se libérer vis-à-vis de l'individu lésé, et cela sous une forme quelconque, même celle d'une compensation sous forme de souffrance. Châtiment, en tant que restriction et limitation d'un trouble d'équilibre pour empêcher la propagation de ce trouble. Châtiment, moyen d'inspirer la terreur en face de ceux qui déterminent et exécutent le châtiment. Châtiment, moyen de compensation pour les avantages dont le coupable a joui jusque-là. Par exemple, lorsqu'on l'utilise comme esclave dans une mine. Châtiment, moyen d'éliminer un élément dégénéré, dans certaines circonstances toute une branche, comme le prescrit la législation chinoise. Donc, moyen d'épurer la race ou de maintenir un type social. Châtiment, occasion de fête pour célébrer la défaite d'un ennemi en l'accablant de raillerie. Châtiment, moyen de créer une mémoire, soit chez celui qui subit le châtiment, c'est ce qu'on appelle la correction, soit chez les témoins de l'exécution. Châtiment, paiement d'honoraires fixé par la puissance qui protège le malfaiteur contre les excès de la vengeance. Châtiment, compromission avec l'état primitif de la vengeance en tant que cet état primitif est encore maintenu en vigueur par des races puissantes qui le revendiquent comme un privilège. Châtiment, déclaration de guerre et mesures de police contre un ennemi de la paix, de la loi, de l'ordre, de l'autorité, que l'on considère comme dangereux pour la communauté, violateur des traités qui garantissent l'existence de cette communauté, rebelle, traître et perturbateur, et que l'on combat par tous les moyens dont la guerre permet de disposer. 14. Cette liste n'est certainement pas complète, car il est évident que le châtiment trouve son utilité dans toutes les circonstances. Il me sera donc permis d'autant plus facilement de lui retirer une utilité supposée qui, dans la conscience populaire, passe pour son utilité essentielle. La foi au châtiment, qui pour bien des raisons a été ébranlée aujourd'hui, trouve encore en elle son plus ferme soutien. Le châtiment aurait la propriété d'éveiller chez le coupable le sentiment de la faute. On voit en lui le véritable instrument de cette réaction psychique que l'on appelle mauvaise conscience, remords. Pourtant, c'est là porter atteinte à la réalité et à la psychologie, même pour ce qui regarde notre époque, et combien davantage encore, quand on envisage la longue histoire de l'homme, toute son histoire primitive. Le véritable remords est excessivement rare, en particulier chez les malfaiteurs et les criminels. Les prisons, les bagnes ne sont pas les endroits propices à l'éclosion de ce ver rongeur. Là-dessus, tous les observateurs consciencieux sont d'accord, quelque répugnance qu'ils éprouvent d'ailleurs, souvent, à faire un pareil aveu. En thèse générale, le châtiment refroidit et endurcit. Il concentre, il aiguise les sentiments d'aversion, il augmente la force de résistance. S'il arrive qu'il brise l'énergie et amène une pitoyable prostration et une humiliation volontaire, un tel résultat est certainement encore moins édifiant que l'effet moyen du châtiment. C'est le plus généralement une gravité sèche et morne. Si nous nous reportons maintenant à ces milliers d'années qui précèdent l'histoire de l'homme, nous prétendrons hardiment que c'est précisément le châtiment qui a le plus puissamment retardé le développement du sentiment de culpabilité, du moins chez les victimes des autorités répressives. Et ne négligeons pas de nous rendre compte que c'est l'aspect des procédures judiciaires et exécutives qui empêche le coupable de condamner en soi son méfait et la nature de son action. Car il voit commettre au service de la justice, commettre en bonne conscience, puis approuver la même espèce d'action, savoir l'espionnage, la duperie, la corruption, les pièges tendus, tout l'art plein de ruses et d'artifices du policier et de l'accusateur, puis encore ses actions, essentiellement criminelles, qui n'ont même pas pour excuse la passion, le rapt, la violence, l'outrage, l'incarcération, la torture, le meurtre, tels qu'ils sont marqués dans les différentes sortes de châtiments. Tout cela n'est donc pas condamné par le juge et réprouvé en soi, mais seulement dans certaines circonstances et sous certaines conditions. La mauvaise conscience, cette plante la plus étrange et la plus intéressante de notre flore terrestre, n'a pas sa racine dans ce sol-là. Pendant bien longtemps, en effet, dans l'esprit de celui qui juge et punit, ne s'est même pas glissé l'idée qu'il pourrait avoir affaire à un coupable. Le malfaiteur était pour lui l'auteur d'un dommage, une parcelle irresponsable de la destinée. Et ce malfaiteur sur qui tombait alors le châtiment, comme une autre parcelle de destinée, n'en éprouvait d'autre peine intérieure que s'il était victime d'une catastrophe imprévue, d'un phénomène terrifiant de la nature, un bloc de rocher qui roule et qui écrase tout sur son passage, sans qu'il y ait contre lui possibilité de lutte. 15. Non sans qu'il en éprouvât quelque embarras, ce fait se présenta un jour à la conscience de Spinoza, au grand déplaisir de ses interprètes, qu'une officière entre autres, qui se sont méthodiquement efforcés de le mal comprendre en cet endroit. À Alors qu'il se frottait à je ne sais quel souvenir, il se mit à réfléchir à la question de savoir ce qui était demeuré en lui du fameux morsus consensiae, en lui qui avait rangé le bien et le mal parmi les imaginations de l'homme et avait défendu avec colère son Dieu libre contre ces blasphémateurs qui prétendaient que Dieu n'agit que sous bratillonné boni, ceux qui s'appelleraient assujettir Dieu au destin, et ce serait la plus étrange des absurdités. Le monde, pour Spinoza, était revenu à cet état d'innocence où il se trouvait avant l'invention de la mauvaise conscience. Que devenait alors le morsus consentiae? L'antithèse du Gaudium, se dit-il enfin, une tristesse accompagnée de l'image d'une chose passée dont l'événement a trompé toute attente. Éthique, chapitre 3, proposition 18. Des milliers d'années durant, les malfaiteurs n'ont eu, au sujet de leurs méfaits, d'autre impression que celle dont parle Spinoza comme d'une impression personnelle. Ici, il y a eu un accident imprévu, et non, je n'aurais pas dû faire cela. Les malfaiteurs se soumettaient au châtiment comme on se soumet à une maladie, à une calamité ou bien à la mort, sans révolte, avec ce fatalisme courageux, par quoi, aujourd'hui encore, les Russes l'emportent sur nous autres occidentaux dans les choses de la vie. S'il y avait alors une critique de l'acte, c'était la perspicacité qui exerçait sa critique. Il n'est pas douteux qu'il nous faut, avant tout, chercher l'effet du châtiment dans l'augmentation de la perspicacité, dans un développement de la mémoire, dans la volonté d'agir dorénavant avec plus de prudence, de précaution, de mystère, dans la constatation qu'en beaucoup d'affaires, on est décidément trop faible, dans une espèce de réforme du jugement qu'on porte sur soi-même. Ce que l'on atteint, en somme, par le châtiment chez l'homme et chez l'animal, c'est l'augmentation de la crainte, l'affinement de la perspicacité, la domination sur les appétits. En ce sens, le châtiment dompte l'homme, mais ne le rend pas meilleur. On pourrait, avec plus de raison, prétendre le contraire. Dommage rend sage, dit le peuple. Mais dans la mesure qu'il rend sage, il rend mauvais. Par bonheur, il arrive assez souvent qu'il rend stupide. 16. Arrivé à ce point, je ne puis plus me dérober à la nécessité de donner à ma propre hypothèse sur l'origine de la mauvaise conscience une première expression toute provisoire. Elle n'est pas aisée à faire entendre et veut être longuement méditée, surveillée, ruminée. Je considère la mauvaise conscience comme le profond état morbide où l'homme devait tomber sous l'influence de cette transformation, la plus radicale qu'il ait jamais subie, de cette transformation qui se produisit lorsqu'il se trouva définitivement enchaîné dans le carcan de la société et de la paix. Tels des animaux aquatiques contraints de s'adapter à la vie terrestre ou à périr, ces demi-animaux, si bien accoutumés à la vie sauvage, à la guerre, aux courses vagabondes et aux aventures, virent soudain tous leurs instincts avilis et rendus inutiles. On les forçait, dès lors, à aller sur leurs pieds et à se porter eux-mêmes, alors que, jusqu'à présent, l'eau les avait portés. Un poids énorme les écrasait. Ils se sentaient inaptes aux fonctions les plus simples. Dans ce monde nouveau et inconnu, ils n'avaient pas leur guide d'autrefois, ses instincts régulateurs, inconsciemment infaillibles. Ils en étaient réduits à penser, à déduire, à calculer, à combiner des causes et des effets, les malheureux. Ils en étaient réduits à leur conscience, à leur organe le plus faible et le plus maladroit. Je crois que jamais sur terre il n'y eut pareil sentiment de détresse, jamais malaise aussi pesant. Ajoutez à cela que les anciens instincts n'avaient pas renoncé d'un seul coup à leurs exigences, mais il était difficile et souvent impossible de les satisfaire. Ils furent en somme forcés de se chercher des satisfactions nouvelles et souterraines. Tous les instincts qui n'ont pas de débouché, que quelques forces répressives empêchent d'éclater au dehors, retournent en dedans. C'est là ce que j'appelle l'intériorisation de l'homme. De cette façon se développe en lui ce que plus tard on appellera son âme. Tout le monde intérieur, d'origine mince à tenir entre cuir et chair, s'est développé et amplifié, a gagné en profondeur, en largeur, en hauteur, lorsque l'expansion de l'homme vers l'extérieur a été entravée. Ces formidables bastions que l'organisation sociale a élevés pour se protéger contre les vieux instincts de liberté. Et il faut placer le châtiment au premier rang de ses moyens de défense, ont réussi à faire se retourner tous les instincts de l'homme sauvage, libre et vagabond, contre l'homme lui-même. La rancune, la cruauté, le besoin de persécution, tout cela se dirigeant contre le possesseur de tels instincts, c'est là l'origine de la mauvaise conscience. L'homme qui, par suite du manque de résistance et d'ennemis extérieurs, serré dans les taux de la régularité des mœurs, impatiemment se déchirait, se persécutait, se rongeait, s'épouvantait et se maltraitait lui-même. Cet animal que l'on veut domestiquer et qui se heurte jusqu'à se blesser au barreau de sa cage. Cet être que ses privations font languir dans la nostalgie du désert et qui, fatalement, devait trouver en lui un champ d'aventure, un jardin de supplice, une contrée dangereuse et incertaine. Ce fou, ce captif aux aspirations désespérées, devint l'inventeur de la mauvaise conscience. Mais alors fut introduite la plus grande et la plus inquiétante de toutes les maladies, dont l'humanité n'est pas encore guérie aujourd'hui. L'homme, maladie de l'homme, malade de lui-même. Conséquence d'un divorce violent avec le passé animal, d'un bond et d'une chute tout à la fois dans de nouvelles situations, au milieu de nouvelles conditions d'existence, d'une déclaration de guerre contre les anciens instincts, qui jusqu'ici faisait sa force, sa joie et son caractère redoutable. Ajoutons de suite que, d'autre part, le fait d'une âme animale se tournant contre elle-même fournit au monde un élément si nouveau, si profond, si inouï, si énigmatique, si riche en contradictions et en promesses d'avenir, que l'aspect du monde en fut réellement changé. Vraiment, il eût fallu des spectateurs divins pour apprécier le drame qui commença alors et dont on ne peut pas encore prévoir la fin. Un drame trop délicat, trop merveilleux, trop paradoxal pour être joué sans signification aucune sur n'importe quelle misérable planète où il passerait inaperçu. Depuis lors, l'homme compte parmi les coups heureux les plus inattendus et les plus passionnants que joue le grand enfant d'Héraclite, qu'on l'appelle Zeus ou bien le hasard. Il éveille en sa faveur l'intérêt, l'attente anxieuse, l'espérance. presque la certitude, comme si quelque chose s'annonçait par lui, se préparait, comme si l'homme n'était pas un but, mais seulement une étape, un incident, un passage, une grande promesse. Comme condition de cette hypothèse sur l'origine de la mauvaise conscience, il faut admettre d'abord que cette modification ne fut pas insensible ou volontaire, qu'elle ne se présenta pas comme l'adaptation organique à un nouvel état de choses, mais comme une rupture, un saut, une obligation, une fatalité inéluctable, contre quoi il n'y avait ni possibilité de lutte, ni ressentiment. En second lieu, que la soumission à une forme fixe d'une population jusqu'alors sans normes et sans freins, telle qu'elle a commencé par un acte de violence, ne peut être menée à terme que par d'autres actes de violence, que par conséquent, l'état primitif a dû entrer en scène avec tout le caractère d'une effroyable tyrannie, d'un rouage meurtrier et impitoyable, et continuer à se manifester ainsi, jusqu'à ce qu'enfin, une telle matière brute d'un peuple encore plongé dans l'animalité soit non seulement pétrée et rendue maniable, mais encore façonnée. J'ai employé le mot « état ». Il est aisé de concevoir ce que j'entends par là. Une horde quelconque de blondes têtes de proie, une race de conquérants et de maîtres, qui, avec son organisation guerrière, doublée de la force d'organiser, laisse sans scrupule tomber ses formidables griffes sur une population peut-être infiniment supérieure en nombre, mais encore inorganique et errante. Telle est bien l'origine de l'État sur la terre. Je pense qu'on a fait justice de cette rêverie qui faisait remonter cette origine à un contrat. Celui qui s'est commandé, celui dont la nature a fait un maître, celui qui se montre puissant dans son œuvre et dans son geste, qu'importe à celui-là les traités. Avec de tels éléments, on ne peut pas compter, ils arrivent comme la destinée, sans cause, sans raison, sans égard, sans prétexte. Ils sont là, avec la rapidité de l'éclair, trop terrible, trop soudain, trop convaincant, trop autre pour être même un objet de haine. Leur œuvre consiste à créer instinctivement des formes, à frapper des empreintes. Ils sont les artistes les plus involontaires et les plus inconscients qui soient. Là où ils apparaissent, en peu de temps, il y a quelque chose de neuf, un rouage souverain qui est vivant, où chaque partie et chaque fonction est délimitée et déterminée, où rien ne trouve place qui n'ait d'abord sa signification par rapport à l'ensemble. Ils ne savent pas, ces organisateurs de naissance, ce que c'est que la faute, la responsabilité, la déférence. En eux règne cet effrayant égoïsme de l'artiste au regard d'airain et qui se sait justifié d'avance dans son œuvre, en toute éternité, comme la mère dans son enfant. Ce n'est point chez eux, on le devine, qu'a germé la mauvaise conscience. Mais sans eux, elle n'aurait point levé cette plante horrible. Elle n'existerait pas si, sous le choc de leurs coups de marteau, de leur tyrannie d'artiste, une prodigieuse quantité de liberté n'avait disparu du monde, ou du moins disparu à tous les yeux, contrainte de passer à l'état latent. Cet instinct de liberté rendu latent par la force, resserré, refoulé, rentré à l'intérieur, ne trouvant plus dès lors qu'à s'exercer et à s'épancher en lui-même, cet instinct, rien que cet instinct, nous l'avons déjà compris, fut au début la mauvaise conscience. Qu'on se garde toutefois de faire trop peu de cas de ce phénomène, puisque dès son début, il nous apparaît laid et douloureux. Au fond, c'est la même force active que nous avons vue tout à l'heure, opérant d'une façon grandiose chez ces artisans de la violence, chez ces organisateurs pour créer des États. La force qui, maintenant rapetissée et mesquine, se crée la mauvaise conscience, agissant à l'intérieur d'une façon rétrograde, dans le labyrinthe du cœur, pour parler avec Goethe, pour s'édifier un idéal négatif, l'idéal négatif de cet instinct de liberté, ou, comme je dirais dans mon langage, de la volonté de puissance. Seulement, la matière sur laquelle s'exerce la nature formatrice et dominatrice de cette force est ici l'homme même, son ancien moi animal, et non, comme dans le premier phénomène plus grandiose et plus frappant, l'autre homme, les autres hommes. Cette secrète violation de soi-même, cette cruauté d'artiste, cette volonté à se façonner comme on ferait d'une matière résistante et sensible, à se marquer de l'empreinte d'une volonté, d'une critique, d'une contradiction, d'un mépris, d'une négation. Ce travail inquiétant, plein d'une joie épouvantable. Le travail d'une âme volontairement disjointe qui se fait souffrir par plaisir de faire souffrir. Toute cette mauvaise conscience agissante, en véritable génératrice d'événements spirituels et imaginaires, a fini par amener à la lumière, on le devine déjà, une abondance d'affirmations, de nouvelles et d'étranges beautés, et peut-être lui doit-on même la naissance de la beauté même. Qu'est-ce qui serait bon si la contradiction n'était pas devenue consciente d'elle-même, si la laideur ne s'était pas dite à elle-même « je suis laide ». Du moins, cette indication rendra-t-elle moins énigmatique la question de savoir en quelle mesure des notions contradictoires comme le désintéressement, l'abnégation, le sacrifice de soi peuvent renfermer un idéal, une beauté. Et il y a une chose que l'on saura dorénavant, j'en suis certain, la qualité de la volupté qu'éprouve de tout temps celui qui pratique le désintéressement, l'abnégation, le sacrifice de soi. Cette volupté est de la même essence que la cruauté. Pour le moment, nous n'en dirons pas davantage, ni sur l'origine du désintéressement en tant que valeur morale, ni pour la délimitation du champ où cette valeur a pris naissance. La mauvaise conscience, la volonté de se torturer soi-même, donne seulement la condition première pour fixer la valeur du désintéressement. 19. C'est une maladie, la mauvaise conscience. La chose n'est que trop certaine. Mais une maladie du genre de la grossesse. Cherchons les conditions qui ont amené cette maladie à son degré d'intensité le plus terrible et le plus sublime. Nous verrons ce qui a fait ainsi pour la première fois son entrée dans le monde. Mais pour cela, il ne s'agit pas d'être court d'haleine. Et d'abord, il nous faudra revenir à un de nos points de vue précédents. Le rapport de droit privé entre le débiteur et le créancier, dont il a déjà été longuement question, a été introduit encore une fois et d'une façon très extraordinaire et contestable au point de vue historique, dans l'interprétation de certains rapports, peut-être les plus incompréhensibles pour nous autres hommes modernes. Il s'agit du rapport entre les générations actuelles et celles qui les ont précédées. Au sein de la première association entre hommes d'une même race, nous parlons des temps primitifs. La génération vivante reconnaissait chaque fois, envers les générations précédentes, et surtout envers la plus reculée, celle qui a fondé la race, une obligation juridique, et nullement un simple devoir de sentiment, dont on pourrait même contester l'existence pour la plus longue période de l'espèce humaine. Alors, règne la conviction que l'espèce n'a persisté dans sa durée que grâce aux sacrifices et aux productions des ancêtres, et qu'on doit s'acquitter envers eux en sacrifices et en productions. On reconnaît donc une dette dont l'importance ne fait que grandir, parce que les ancêtres qui survivent comme esprits puissants ne cessent de s'intéresser à la race et de lui accorder, de par leur force, de nouveaux avantages et de nouvelles avances. Gratuitement, sans doute. Mais il n'existe aucune gratuité pour ces époques barbares et pauvres en âme. Que peut-on leur donner en retour? Des sacrifices, d'abord sous forme d'aliments, dans le sens le plus grossier. Des fêtes, des chapelles, des témoignages de vénération, avant tout de l'obéissance. Car tous les usages sont l'œuvre des ancêtres, l'expression de leurs préceptes et de leurs ordres. Leur donne-t-on jamais assez? Cette crainte demeure et va grandissant. De temps en temps, elle impose un rachat considérable en bloc, quelques contre-prestations monstrueuses rendues aux créanciers. Le fameux sacrifice du premier-né, par exemple, du sang humain. La crainte de l'ancêtre et de sa puissance, la conscience d'une dette envers lui grandit nécessairement, d'après cette logique spéciale, dans la même mesure que la puissance de la race, et prend plus de consistance à mesure que la race devient plus victorieuse, plus indépendante, mieux crainte et vénérée. Il ne faut pas s'imaginer que cela pourrait être le contraire. Chaque pas vers la décadence de la race, tous les accidents désastreux, tous les indices de dégénérescence, tous les signes précurseurs de la ruine, diminuent toujours la crainte qu'inspire l'esprit fondateur de la race et donnent une idée toujours moins haute de son intelligence, de sa prévoyance et de l'efficacité persistante de son pouvoir. Imaginons maintenant cette logique rudimentaire poussée à ses extrêmes limites. Les ancêtres des races les plus puissantes devront enfin, grâce à l'imagination de la terreur grandissante, prendre des formes monstrueuses et se perdre dans le lointain ténébreux de l'étrange et de l'indéfinissable. L'ancêtre, fatalement, devait enfin prendre la figure d'un dieu. Peut-être faut-il même rechercher ici toute l'origine des dieux, une origine qui remonte à la crainte. Et celui qui trouverait nécessaire d'ajouter, mais aussi à la piété, pourrait difficilement soutenir sa thèse pour cette période de la race humaine qui fut la plus longue, la période préhistorique. Mais sans doute, avec d'autant plus de facilité pour la période intermédiaire au cours de laquelle les races nobles se sont formées. Ces races ont en effet rendu avec usure à leurs auteurs, à leurs ancêtres, héros et dieux, toutes les qualités que le temps avait fait éclore en elles, les qualités nobles. nous jetterons plus tard encore un coup d'œil sur l'anoblissement et l'exaltation des dieux, qu'il ne faut surtout pas confondre avec leur sanctification. Pour le moment, bornons-nous à suivre jusqu'au bout le développement de cette conscience de la dette. 20. La conscience d'avoir une dette envers la divinité, l'histoire en fait foi, n'a point pris fin avec la forme d'organisation de la communauté basée sur les liens du sang. De même que l'humanité a hérité les concepts « bon » et « mauvais » de la noblesse de race, ainsi que sa tendresse psychologique fondamentale à établir des rangs distinctifs, de même, la foi de l'héritage lui a valu et la divinité de race et de souche, et l'oppression des dettes encore impayées, jointes au désir de s'acquitter. La transition est marquée par ces larges couches de populations esclaves et dépendantes qui se sont façonnées au culte des dieux de leurs maîtres, soit par contrainte, soit par servilité et mimicraille. Alors ces dons héréditaires débordent dans toutes les directions. Le sentiment de la dette envers la divinité n'a cessé de croître pendant des milliers d'années, toujours dans la même proportion où l'idée de Dieu et le sentiment de la divinité ont grandi et se sont développés sur la terre. Toute l'histoire des luttes, des victoires, des réconciliations, des fusions ethniques, tout ce qui précède le classement définitif des éléments populaires dans chaque grande synthèse des races, se reflète dans le chaos des généalogies de leurs dieux, dans les légendes des combats, des victoires, les réconciliations de ces dieux. La marche vers l'empire universel est toujours aussi la marche vers l'universalité du divin. Le despotisme, avec son assujettissement de la noblesse indépendante, fraye toujours la voie à quelque monothéisme. L'avènement du Dieu chrétien, l'expression la plus haute du divin atteinte jusque-là, a aussi fait éclore sur la terre le maximum du sentiment d'obligation. À supposer que nous ayons commencé à entrer dans le mouvement contraire, il serait permis de conclure avec quelque vraisemblance du déclin irrésistible de la foi au Dieu chrétien à un déclin de la conscience de la dette, faute chez l'homme. Déclin déjà fort rapide aujourd'hui. On pourrait même prévoir que le triomphe complet et définitif de l'athéisme libérerait l'humanité de tout sentiment d'une obligation envers son origine, sa causa prima. L'athéisme et une sorte de seconde innocence sont liés l'un à l'autre. 21. C'est tout ce que je dirais provisoirement sur le rapport entre les notions de dette et de devoir avec des suppositions religieuses. J'ai laissé de côté à dessein jusqu'à présent la moralisation proprement dite de ces notions, leur refoulement dans la conscience, plus exactement encore, la complication de la mauvaise conscience par l'idée de Dieu. Et à la fin du précédent paragraphe, j'ai même eu l'air d'ignorer cette moralisation, ce qui nécessairement mettrait fin à ces notions dès que disparaîtraient leurs conditions premières, la foi à notre créancier, à Dieu. En réalité, il en est tout autrement. Par la moralisation des notions de dette et de devoir, par leur refoulement dans la mauvaise conscience, on a tenté de donner une direction inverse au développement qui vient d'être décrit, ou du moins d'arrêter ce développement. Il faudra, dès lors, que la perspective d'une libération définitive disparaisse une fois pour toutes dans la brume pessimiste. Il faudra, dès lors, que le regard désespéré se décourage devant une impossibilité de faire. Il faudra, dès lors, que ces notions de dette et de devoir se retournent. Contre qui donc? Il n'y a aucun doute. En premier lieu, contre le débiteur, chez qui, maintenant, la mauvaise conscience s'attache, s'introduit, s'étend et gagne en largeur et en profondeur à la façon des polypes, jusqu'à ce qu'enfin, l'idée de l'impossibilité de se libérer de la dette engendre celle de l'impossibilité d'expier, l'idée de la punition éternelle. En dernier lieu aussi, contre le créancier, soit que l'on songe à la causa prima de l'homme, à l'origine de l'espèce humaine, l'ancêtre sur lequel on fait reposer une malédiction, Adam, le péché originel, privation du libre arbitre, soit encore à la nature du sein de laquelle l'homme est sorti et où l'on place maintenant le principe du mal, diabolisation de la nature, soit enfin à l'existence en général qui ne vaut pas la peine d'être vécue, éloignement pessimiste de la vie, désir du néant, désir d'un contraire, d'autres choses, bouddhisme et doctrines analogues. Et aussi, jusqu'à ce que nous nous trouvions enfin devant l'effroyable et paradoxal expédient qui fit trouver à l'humanité angoissée un soulagement temporaire. Ce soulagement qui fut le coup de génie du christianisme. Dieu lui-même, s'offrant en sacrifice, pour payer les dettes de l'homme. Dieu se payant à lui-même. Dieu parvenant seul à libérer l'homme de ce qui pour l'homme même est devenu irrémissible. Le créancier s'offrant pour son débiteur. Par amour, qui le croirait? Par amour pour son débiteur. 22. On aura déjà deviné ce qui se passa avec tout cela et sous le voile de tout cela. Cette tendance à se torturer soi-même, cette cruauté rentrée de l'animal homme refoulé dans sa vie intérieure, se retirant avec effroi dans son individualité, enfermé dans l'état pour être domestiqué, et qui inventa la mauvaise conscience pour se faire du mal, après que la voie naturelle de ce désir de faire le mal lui fut coupée. Cet homme de la mauvaise conscience s'est emparé de l'hypothèse religieuse pour pousser son propre supplice à un degré de dureté et d'acuité effrayant. Une obligation envers Dieu. Cette pensée devint pour lui un instrument de torture. Il saisit en Dieu les derniers contrastes qu'il peut imaginer à ses propres instincts animaux irrémissibles. Il transmute ses instincts mêmes en faute envers Dieu, hostilité, rébellion, révolte contre le maître, le père, l'ancêtre et le principe du monde. Il se plante au beau milieu de l'antithèse entre Dieu et le diable. Il jette hors de lui-même toutes les négations, tout ce qui le pousse à se nier soi-même, à nier la nature, le naturel, la réalité de son être, pour en faire l'affirmation de quelque chose de réel, de vivant, de véritable, Dieu, Dieu saint, Dieu juste, Dieu bourreau, l'au-delà, le supplice infini, l'enfer, la grandeur incommensurable de la punition et de la faute. C'est là une espèce de démence, de volonté, dans la cruauté psychique, dont à coup sûr on ne trouvera pas d'équivalent. Cette volonté de l'homme à se trouver coupable et réprouvé jusqu'à rendre l'expiation impossible, sa volonté de se voir châtié sans que jamais le châtiment puisse être l'équivalent de la faute, sa volonté d'infester et d'empoisonner le sens le plus profond des choses par le problème de la punition et de la faute, pour se couper une fois pour toutes la sortie de ce labyrinthe d'idées fixes, sa volonté enfin d'ériger un idéal, celui du Dieu très saint, pour bien se rendre compte, en présence de cet idéal, de son absolue indignité propre. Ô triste et folle bête humaine! À quelles imaginations bizarres et contre nature, à quel paroxysme de démence, à quelle bestialité de l'idée se laisse-t-elle entraîner dès qu'elle est empêchée quelque peu d'être bête de l'action. Tout cela est intéressant à l'extrême, mais à trop longtemps regarder dans cet abîme, on se sent envahi par une tristesse poignante et énervante. C'est pourquoi il faut s'arracher avec violence à ce spectacle. Il n'est pas douteux que nous ne nous trouvions en présence d'une maladie, la plus terrible qui ait jamais sévi parmi les hommes, et celui qui est encore capable d'entendre, mais de nos jours on n'a plus d'oreilles pour entendre où il faudrait, d'entendre retentir dans cette nuit de torture et d'absurdité le cri d'amour, le cri de l'extase enflammée de désir, le cri de la rédemption par l'amour, celui-là se retournera saisi d'une invincible horreur. En l'homme, il y a tant de choses effroyables. Trop longtemps, la terre fut un asile d'aliénés. 23. Ceci suffira une fois pour toutes sur l'origine du Dieu saint. Mais, par elle-même, la conception des dieux n'entraîne pas nécessairement cet abaissement de l'imagination que nous n'avons pu nous dispenser de reconstituer pour un instant. Il y a des façons plus nobles d'utiliser la fiction des dieux que cet auto-crucifiement et cet avilissement de l'homme qui ont été le chef-d'œuvre de l'humanité dans ces mille et quelques dernières années. Pour s'en convaincre, il suffit heureusement de jeter les yeux sur les dieux de la Grèce, sur ces reflets d'hommes plus nobles et plus orgueilleux, chez qui l'animal dans l'homme se sentait divinisé et ne se déchirait pas soi-même plein de fureur. Ces Grecs se sont au contraire longtemps servis de leur dieu pour se prémunir contre toute velléité de mauvaise conscience, pour avoir le droit de jouir en paix de leur liberté d'âme. Donc, dans un sens opposé à la conception que s'était fait de son Dieu, le christianisme. Ils allèrent fort loin dans cette voie, ces superbes enfants terribles au cœur de lion. Et même l'autorité d'un Zeus homérique leur donne parfois à entendre qu'ils vont trop loin. C'est étrange, dit-il une fois. Il s'agit du cas d'Égiste, un cas bien épineux. C'est étrange de voir combien les mortels se plaignent des dieux. De nous seuls vient le mal à les entendre. Pourtant, eux aussi, par leur folie, créent leur propre malheur malgré le destin. Mais l'on entend et l'on remarque que ce spectateur, ce juge olympique, est encore fort éloigné de leur en vouloir à cause de cela et de leur en garder rancune. Qu'ils sont fous, ainsi pense-t-il, en face des méfaits des mortels. Et la folie, la déraison, un peu de trouble dans la cervelle, voilà ce qu'admettaient aussi les Grecs de l'époque la plus vigoureuse et la plus brave pour expliquer l'origine de beaucoup de choses fâcheuses et fatales. Folie et non péché, saisissez-vous ? Et encore, ce trouble dans la tête leur était-il un problème? Comment ce trouble était-il possible? Comment pouvait-il se produire dans des têtes comme nous en avons, nous autres, hommes de noble origine, nous autres, hommes heureux, bienvenus, distingués, de bonne société, vertueux? Telle fut la question que, pendant des siècles, se posa le grec noble en présence de tout crime ou forfait incompréhensible à ses yeux, mais dont un homme de sa caste s'était souillé. « Il faut qu'un dieu l'ait aveuglé, » se disait-il enfin, en hochant la tête. Ce subterfuge est typique chez les Grecs. Voilà la façon dont les dieux, alors, servaient à justifier jusqu'à un certain point les hommes. Même dans leurs mauvaises actions, ils servaient à interpréter la cause du mal. En ce temps-là, ils ne prenaient pas sur eux le châtiment, mais ce qui est plus noble, la faute. 24. Je termine en posant trois problèmes, on s'en doute bien. Élève-t-on ici un idéal ou en renverse-t-on un? Me sera-t-il peut-être demandé. Mais vous êtes-vous jamais assez demandé vous-même à quel prix l'édification de tout idéal en ce monde a été possible? Combien, pour cela, la réalité a dû être calomniée et méconnue? Combien on a dû sacrifier de mensonges, troublés de conscience, sacrifiés de divinité? Pour que l'on puisse bâtir un sanctuaire, il faut qu'un sanctuaire soit détruit, c'est la loi. Qu'on me montre un cas où elle n'a pas été accomplie. Nous autres, hommes modernes, nous sommes les héritiers d'une vivisection de conscience, d'un mauvais traitement exercé sur nous-mêmes à travers des milliers d'années. C'est là-dedans que nous avons le plus d'habitude. C'est peut-être pour nous une sorte de maîtrise, et nous y mettons en tous les cas notre raffinement, la perversion de notre goût. L'homme a trop longtemps considéré d'un mauvais œil ses penchants naturels, de telle sorte que ses penchants ont fini par être de même espèce que la mauvaise conscience. Une tentative contraire n'aurait en soi rien d'impossible, mais qui donc serait assez fort pour l'entreprendre? Il s'agirait de confondre avec la mauvaise conscience tous les penchants antinaturels, toutes les aspirations vers l'au-delà, contraires au sens, aux instincts, à la nature, à l'animal. En un mot, tout ce qui jusqu'à présent a été considéré comme idéal, tout idéal ennemi de la vie, tout idéal qui calomnie le monde. À qui s'adresser aujourd'hui avec de telles espérances et de telles prétentions? On aurait contre soi, précisément, les hommes de bien, puis, comme de raison, les gens nonchalants, conciliants, vaniteux, exaltés ou fatigués. Qu'est-ce qui blesse davantage? Qu'est-ce qui sépare plus profondément que de laisser voir quelque chose de la rigueur hautaine avec laquelle on se traite soi-même? Et par contre, que de bienveillance, que d'affection nous témoigne tout le monde, dès que nous faisons comme tout le monde, et que nous nous laissons aller comme tout le monde. Pour atteindre ce but, il faudrait un autre genre d'esprit que celui que l'on rencontre à notre époque. Des esprits fortifiés par la guerre et la victoire, pour qui la conquête, l'aventure, le danger, la douleur même, sont devenus des nécessités. Il faudrait l'habitude de l'air vif des hauteurs, l'habitude des marches hivernales, l'habitude des glaces et des montagnes, et je l'entends dans toutes les acceptions. Il faudrait même un genre de sublime méchanceté. une malice suprême et consciente du savoir qui appartient à la pleine santé. Il faudrait, en un mot, et c'est triste à dire, cette grande santé elle-même. Mais est-elle possible aujourd'hui, à une époque quelconque, dans un temps plus robuste, que ce présent veule et découragé? Il faudra pourtant qu'il nous vienne, l'homme rédempteur du grand amour et du grand mépris, l'esprit créateur que sa force d'impulsion chassera toujours plus loin de tous les à côté et de tous les au-delà. L'homme dont la solitude sera méconnue par les peuples comme si elle était une fuite devant la réalité, tandis qu'il ne fera que s'enfoncer, s'abîmer, s'enterrer dans la réalité, pour ramener un jour, lorsqu'il reviendra à la rédemption de cette réalité, le rachat de la malédiction que l'idéal actuel a fait peser sur elle. Cet homme de l'avenir qui nous délivrera à la fois de l'idéal actuel et de ce qui forcément devait en sortir, du grand dégoût, de la volonté du néant et du nihilisme, ce coup de cloche de midi et du grand jugement, ce libérateur de la volonté qui rendra au monde son but et à l'homme son espérance, cet antéchrist et anti-nihiliste, ce vainqueur de Dieu et du néant. Il faut qu'il vienne un jour. 25. Mais qu'ai-je à parler ainsi? Assez, assez. En cet endroit, je n'ai qu'une chose à faire, à garder le silence. Sinon, j'empiéterai sur un terrain où seul a accès quelqu'un de plus jeune que moi, quelqu'un de plus d'avenir, quelqu'un de plus fort que moi. Je veux dire Zarathoustra, Zarathoustra, l'impie.